compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Dans un stade, devant un match de football, chaque spectateur est en fait un cinéaste, oui, réglant sa focale sur un geste, une action, en créant sa propre dramaturgie et même ses ellipses, regarder son voisin, rater un but. Bref, tout se passe en direct, là, maintenant. Alors, question ce matin, comment le cinéma en différé raconte-t-il le football autrement? Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un père et son fils, comme souvent au football, ont écrit ce livre, Le foot à l'écran. Bonjour Julien Camille.
Bonjour.
Avec votre père Gérard, vous signez cette anthologie. Plus de 300 films sélectionnés consacrés à cette passion planétaire et édités chez Hugo Images. Un ouvrage préfacé par un sacré spécialiste. Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour.
Écrivain et journaliste au quotidien L'Équipe. À vos côtés, un acteur, ancien défenseur, ancien entraîneur et fan de ballon rond. Bonjour François Merléand. Et pour compléter ce tableau, un entraîneur et consultant et cinéphile. Je pensais jamais le dire un jour. Bonjour Raymond Domenech.
Ah bon, pourquoi? Mais c'est à ce point-là négatif.
Mais non, c'est par rapport au cinéma.
Ah bon, c'est avec les footballeurs.
Mais non, mais ça va pas. Enfin, les sorties de ce mercredi entre Nicole Garcia et Happy Chatpong. Vera, c'est à cool. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
If you're watching a game, then in a way the rhythm of the game is different. I mean, the rhythm of a drama.
Quand vous regardez un match, le rythme est différent de celui d'un film qui est plus en rapport avec la tension d'une dramaturgie et avec l'exposition d'une narration. Un film a une forme bien définie. Dans un match de foot, vous pouvez voir plusieurs buts dans les premières minutes et puis plus rien jusqu'à la fin de la rencontre. C'est donc différent. Pour la plupart des gens, la tension et les sentiments qu'il y a dans un match sont plus forts que dans une salle de cinéma. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais la joie que vous ressentez quand votre équipe marque un but est probablement plus intense que celle que vous vivez dans la majorité des films. Et si votre camp est battu, le désespoir qui s'empare de vous est plus profond.
Parole de Ken Loach, cinéaste et fan absolu de foot. Julien Camille, une tension plus forte, une joie plus grande au football qu'au cinéma, vous êtes d'accord?
Oui, même si au cinéma, en fait, la différence, c'est qu'on va au stade pour vivre des émotions, voir du sport, et on va au cinéma pour voir où il y a des histoires de sport, pour voir l'histoire de ce geste sportif, en fait. C'est la différence, c'est qu'on va au stade pour voir du sport, et on va dans les salles de cinéma pour voir l'histoire de ce sport.
Quand on va voir un film sur le football, mais quand on va au cinéma, on attend des émotions aussi.
Oui, évidemment. Mais Loach rajoute aussi que, en fait, quand on évoque notamment lui les classes laborieuses et les classes ouvrières. Il ne faut pas oublier deux choses qui sont très importantes pour caractériser ces populations-là. C'est l'humour et le football, ouais, qui font partie intégrante de leur vie, en fait. Et si on veut bien en parler, il faut évoquer le football.
François Berléand, vos grandes émotions de spectateurs de foot, est-ce qu'elles ont dépassé celles ressenties au cinéma?
Non.
Non. Ah non, c'est plus fort.
Ah bah oui, évidemment. Une finale de Coupe du Monde, c'est quand même plus fort que n'importe quel film.
Que Garou Stanley.
Un titre, peut-être.
Au revoir.
Mais quand vous êtes, alors, vous êtes souvent au théâtre. Oui. Comment faites-vous quand un match est en direct et que vous allez devoir le voir en direct?
Depuis l'invention du magnétoscope, voilà, ça m'a... J'ai réussi à voir à peu près tous les films, non pas en direct.
Les films, les matchs.
J'ai une anecdote extraordinaire. C'est le France-Bulgarie, où on a été éliminé, je ne sais plus.
93.
Voilà.
17 novembre 93.
17 novembre 93. Je pars le 15 novembre. Je pars le 15 novembre à Cuba.
Ouais.
À Cuba, hein.
Oui.
Je tourne un film. Je demande à tout le monde. Je ne veux pas savoir le résultat. Donc, il n'y a pas personne me le dit, évidemment. Et puis, à Cuba, ils s'en foutent complètement de la France. Donc, voilà. Trois semaines après, je reviens. je mets mon magnétoscope, je sais pas, il est 6h du matin, je mets et je regarde tout le match et on est éliminé. Et là, je dis, c'est pas possible. C'est une blague. En fin de compte, il y a des caméras qui ont filmé, c'est pas possible. C'est pas à la dernière seconde, c'est impossible, ça marche pas. Et moi, je suis désespéré, je téléphone à mon meilleur pote et je lui dis, mais c'est pas vrai, on est qualifié. Il dit, bah non. Mais c'est pas possible. Et moi, il avait digéré ça, c'était affreux, quoi. J'étais dans un état.
À l'époque, on pouvait vivre 3 semaines sans avoir d'infos.
Bon, à Cuba, oui. C'est particulier. Oui. À l'époque, c'était voilà. Et moi, je vous jure que c'est vrai. Voilà.
Vincent Duluc, vous, dès le démarrage de ce livre, Le foot à l'écran, vous écrivez, j'ai toujours pensé que le cinéma était là pour raconter autrement le football. C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire que le football est déjà filmé sous tous les plans, oui. On est déjà mis en scène, oui. On a multiplié les caméras, on a eu du mal à renouveler la narration, on n'y arrive pas vraiment. On sent bien que la prochaine étape, ça sera, je sais pas, des caméras GoPro sur la tête des joueurs pour avoir une impression de vitesse et d'immersion, enfin des choses comme ça. Mais en attendant, de l'extérieur, on change pas grand-chose, même si maintenant il y a des caméras sur grue qui traversent tout le terrain. Ouais. Donc au cinéma, il faut recréer déjà, il y a une vraie difficulté, c'est de recréer le geste technique. Notamment dans le foot, on n'y parvient jamais. Finalement, les films de foot les plus réussis, c'est ceux qui ont des extraits de vrai foot. Par exemple, je me souviens du film de Laetitia Masson, en avoir ou pas, où il y avait des extraits de matchs à Lyon. Et en fait, ils s'inséraient dans la narration. Il y avait les acteurs, je crois que c'était Arnaud Giovanninetti et Sandrine Kimmerlin qui étaient dans le public. Et du coup, ça fonctionnait comme ça, Smic Pong. Mais recréer les scènes du foot, comme on l'a vu avec Patrick Deverne en coup de tête, les scènes de foot sont jamais crédibles.
Raymond Domenech, que vous êtes cinéphile, je le disais aussi. Pour vous, quel est le meilleur film sur le football?
Je tiens à préciser, cinéphile, ça veut dire que j'aime le cinéma. Oui, ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste du cinéma.
Non, je ne vais pas vous poser...
Soyons clairs.
Selon vous, Raymond Domenech, quel est le film pour vous qui raconte le mieux le foot?
Moi, dès qu'il y a un truc de foot, je ne regarde pas. Le cinéma.
Eh bien, au revoir. Merci, Raymond Domenech.
Non, mais c'est clair.
Deuxième victime.
Tellement... Mais oui, parce que le foot...
Sur le banc de touche.
Vous l'avez expliqué tout à l'heure avec Ken Loach, ce qu'il disait, ce que disait Vincent. Oui. C'est tellement difficile de traduire le foot. Moi, quand le foot, c'est un côté très professionnel. Je le regarde en regardant comment ça fonctionne, comment ça marche. Le truc au cinéma, c'est des à côté du foot. C'est pour traduire de l'émotion. C'est pour traduire la vie de quelque chose. Mais le foot, en soi, c'est une catastrophe. Les images.
Question existentielle. Alors, du coup, est-ce que le footballeur est un artiste?
Bien sûr, est un artiste puisqu'il crée quelque chose. Et il crée un geste, il crée un mouvement, il crée une émotion, exactement comme l'acteur au théâtre, au cinéma. C'est la même chose. Quand on vit un match de foot, et vous le disiez tout à l'heure, c'est un moment d'émotion. Mais l'émotion n'attend pas la fin pour l'exprimer. On l'exprime à l'instant. On peut hurler, crier, insulter quelqu'un pendant 1h30. Il y en a même qui le font avant et après. Mais bon, on a le droit. Et cette émotion, elle est permanente. Et les joueurs créent ça. Créent cette émotion.
Cette dramaturgie. Julien Camille, le foot à l'écran, vous remontez la chronologie. Donc, des premiers matchs fixés sur pellicule à la fin du 19e jusqu'au doc sur les plateformes. Ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. Vous parlez de ce film Harry the Footballer en 1911. L'histoire d'un joueur de foot, une star de foot, kidnappé avant le match.
Oui, ça a souvent été une narration qui a été très utilisée normalement dans les premiers films sur cette histoire de que ça soit le joueur vedette ou le goal de l'équipe adverse que l'on kidnappe, que ça soit des fans ou des dirigeants d'équipe adverse pour essayer de gagner le derby qui va arriver le week-end d'après. Donc ça a souvent été utilisé comme ça. Mais il y a même eu un des premiers films d'Alexandre Promio de 1897 qui déjà captait des joueurs de foot parce qu'en fait le sport et le mouvement et le cinéma c'est l'art du mouvement. Donc c'était obligatoire que dès l'arrivée du cinéma, qui est un petit peu arrivé en même temps que tous les sports ont été, on va dire, réglés, en tout cas organisés, ils sont arrivés ensemble, donc ils ont grandi ensemble aussi. Voilà.
On va faire un saut dans le temps, on va sauter en 1957 avec ce petit canaillou d'Harry Cole et dans le triporteur, on écoute un extrait.
À moins d'un miracle, la courageuse petite équipe paraît vouée à une défaite écrasante. En effet, qui pourrait maintenant encore sauver Vaubrel?
Bonne nouvelle pour les supporters de Vaubrel, voici Dabeck qui revient prendre sa place, quoique c'est curieux, je ne reconnais pas sa silhouette. Là. Et qu'est-ce que c'est que ce type? Enlevez-moi ce crétin tout de suite, vous voulez ma peau?
On dirait Antoine Perralou, le commis du pâtissier. Il jouait en junior. Il n'en a jamais touché une.
Et vous me dites ça en face?
Décidément, je me sens très en forme, là. Mais poussez-vous, quoi! Par vous, qu'est-ce que je vois derrière vous? Allez, allez jouer ailleurs, moi j'ai pas fait 500 km pour ne pas voir le match, allez jouer ailleurs, c'est quelque chose. Parez-vous, mais poussez-vous, mais allez jouer ailleurs, je vous dis, j'y vois rien, hein, quoi, enfin, c'est allez, hop, là, comme ça j'y verrai quelque chose.
Voilà, là, une très grande, très grande. D'ailleurs, le petit canaillou, ça vient de ce film-là. Je l'ai appris dans votre livre, Le foot à l'écran.
Une fois.
Le foot aussi a été longtemps méprisé par la classe intellectuelle, Vincent Duluc.
Oui, bien sûr. Ouais. Ça a aussi créé une difficulté, je pense, au niveau de sa représentation. C'est-à-dire par rapport à la boxe, qui a vraiment été le sport le plus représenté au cinéma. Le foot, oui, il y a eu ce mépris-là. C'est-à-dire pour la boxe, la classe intellectuelle comprenait mieux la métaphore, sans doute, et acceptait de s'encanailler. Pour le foot, non, c'était un truc... ça a quand même été longtemps en France, un truc de beauf, dans les années 60-70. Il a fallu que la confusion entre la culture de la victoire et la culture du foot arrive avec la Coupe du Monde 98, pour que comme ça se déplace un peu, et qu'il y ait une certaine boboïsation du foot, un peu dans la marche, quand même.
Vous êtes d'accord avec ça, Raymond Domenech?
Complètement.
Sur le mépris de la classe. Ouais.
Ouais, moi, je suis arrivé en 70, donc c'est bien. Ça a commencé à ce moment-là à s'intellectualiser.
Oui, mais Camus jouait au foot.
Oui, mais c'est ça. Mais on cite toujours la même phrase de Camus, la même phrase de Monterland. Bah, mais à côté de ça, tout le monde nous méprisait de manière absolue.
Oui, mais que Sartre, il jouait pas au foot. Mais c'est pas... il y avait pas du foot à la télé, mais pas de...
Julien Camus.
Pasolini, qui était un grand joueur et grand fan de foot, disait que le plus grand poète, tous les ans, c'est le meilleur buteur du championnat.
Oui, mais ils n'étaient pas au stade. Je veux dire, c'était un rejet. Je veux dire, il y avait quelques artistes qui en parlaient et qui vantaient les mérites et les valeurs du sport. Mais c'était pas des gens qui venaient au stade dans la tribune officielle qui en parlaient. C'était vraiment... c'est pour les autres. Il y a quelques-uns qui en parlent, mais c'était pas lié. On pouvait pas s'associer à la populace. Il y avait ça.
La vraie vision du foot, c'est le mot dans Coup de tête de Jean Bouys disant « J'entretiens ces imbéciles pour en calmer 2000 ».
C'est ça
la vision des années 70-80.
Le foot, c'est politique aussi, ça a servi pas mal au Bloc de l'Est, Julien Camus.
Ah oui, le Bloc de l'Est a vite compris que le sport était quand même, pouvait être aussi une sorte d'opium, en tout cas aussi le symbole de la force, de la force d'un pays, et s'en est emparé et a fait de nombreux films à partir des années 30, 40, 50, la Hongrie, l'Union soviétique, ils ont enchaîné beaucoup de films, et notamment ils ont fait deux films qui vont inspirer après le À nous la victoire de John Huston, la troisième mi-temps et deux mi-temps en enfer, qui sont en 62-63, en fait, l'histoire que John Huston adaptera après en 81 avec Pelé et Bobby Moore.
La politique au niveau local et ce film incontournable sur les coulisses d'un petit club, la ville, les notables et les supporters, c'est Coup de tête, Jean-Jacques Hano, 1979.
Bon alors, la tactique elle est simple. Hein, on va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh Spivak, c'est ce qu'il a dit numéro 10? Les Polacs, ils leur chiaient sur la gueule.
Bon, alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ces types vous méprisent. Alors vous avez 45 minutes pour régler vos comptes.
Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec sa haine.
La victoire au bout du quai, et la gloire au fond des filets, l'ennemi désemparé.
Vincent Duluc, vous disiez que c'est presque un doc, ce film.
Mais oui, parce qu'en fait, en fait, les phrases, elles paraissent un peu excessives. Mais non, moi, je les ai entendues. Je les ai entendues.
C'est vrai.
Mais évidemment.
Vous avez prononcé Raymond Domenech?
J'ai dit jamais.
Mais tu les as entendues?
Jamais, c'est le truc avec le C devant jamais.
Non, jamais.
Non, c'est pas.
Et jamais les billets coupés en deux pour la moitié avant le match.
C'est peut-être un tort, parce que c'est vrai que ça pousse. J'ai plutôt essayé de toucher le cerveau. C'est l'autre C. Oui. Voilà, je suis resté sur le cerveau et le cœur. J'ai pas réussi à descendre plus bas. Mais c'est vrai que dans le langage du sport, je suis d'accord avec Vincent. Oui, c'est classique ça. C'est rien de. C'est un bon documentaire.
Vous auriez pu jouer dans ce film, François Berléand, ou pas?
Alors, moi, j'avais fait la détection pour, comme footballeur, mais alors vraiment, j'ai été éliminé tout de suite.
C'est Giroud qui sélectionnait.
Voilà, absolument. Oui. On était à Charletti, je crois. C'est des souvenirs. Son texte, c'était il y a longtemps. Hein. Oui. Donc, moi, j'avais pas vraiment le niveau, donc c'était. Mais ça a été, j'étais très triste, parce que j'aurais bien aimé participer au film. Mais bon, après, les rôles de footballeur, c'était des tout petits rôles, c'était pas très intéressant, finalement. Donc,
voilà. Non, on peut dire, coup de tête, Vincent Duluc, qui couvre à peu près tout. Hein. Le petit club, l'argent, la politique, le candidat, enfin, il y a tout dans ce film.
Il y a tout aussi du foot de cette époque, qui était un foot municipal et un foot de notables, et donc il y avait un rapport particulier. Aujourd'hui, on voit bien que le problème, c'est pas la notabilité ou la municipalisation du foot, c'est plutôt les fonds qui viennent de l'extérieur, etc. et tout. Mais c'est pour ça que, quand on dit documentaire, on est pas si loin de la vérité.
Oui, oui, et puis ce qui est marrant, c'est que quand on voit l'ensemble des films de foot, souvent on utilise ces petites équipes ou ces petits clubs parce qu'il y a aussi pour les spectateurs une sorte
d'identification
beaucoup plus facile que des films sur des grandes stars du foot où il y en a finalement très peu et c'est vraiment pas les plus réussis.
Même si vous n'étiez pas comme ça, Raymond Domenech, vous avez bien ressenti ce film, je veux dire, de l'ambiance. Oui. Vous avez connu ces petits clubs aussi. Non.
Non, parce que lui, il a joué que dans des grands clubs.
J'ai joué dans des grands clubs. Non, mais c'est pas une faute. Non, j'ai jamais joué dans un petit club amateur.
Ah, oui.
J'ai toujours été à l'Olympique Lyonnais, qui était un club professionnel. J'ai grandi là-dedans et je suis resté dans ce monde-là. Je vois comment ça fonctionne un petit peu, mais non, je peux pas vous parler de cette expérience-là, je l'ai pas connue.
Sur les fans et les hooligans, il y a un film qui est très, je suppose que vous connaissez bien, Vincent Duluc, c'est « À mort l'arbitre » de Jean-Pierre Mocky. On va écouter un extrait, on en parle après.
Au chef d'arbitre ! Au chef d'arbitre ! Va être habillé, enculé !
D'avoir perdu, c'est un sale coup pour le club.
Tu m'étonnes ! Pourri l'arbitre ! On va te faire payer, pauvre con, va !
C'est à cause de cette ordure.
Enculé ! Ordure !
On va lui faire payer son péno à ce fumier.
Bandit ! Il n'y a pas d'autre sortie, hein !
Mais stop !
Dans les tribunes ! Et fais gaffe ! Et le voilà, je te dis ! On chante, l'arbitre !
Oui, Jean-Pierre Mocky. Donc l'arbitre Maurice Bruno, c'est Eddie Mitchell qui siffle un pénalty faisant perdre l'équipe locale et suit un embrasement collectif. Les hooligans, vous connaissez Raymond Domenech ?
Ça, rassurez-moi. Ça, je connais. Oui.
Non, est-ce que ça vous a fait très très peur un jour ?
Les hooligans ?
Ouais.
Ah oui, ça m'a fait très peur. Je me suis retrouvé en Angleterre, coincé entre la cavalerie de la police.
La police.
Et les supporters qui arrivaient comme ça.
Oui.
J'ai eu une chance, c'est que j'étais en costume, avec une cravate, j'ai levé les mains, et j'ai plus bougé, je me suis mis au milieu. Et les chevaux sont passés comme ça devant moi, mais je décomposais. Hein. Ça arrivait, voilà. C'est impressionnant. Quand ils arrivent avec les chaussures là, qui font les gros brequins, qui s'est lancé, ça fait peur, honnêtement. Il vaut mieux être dans le même sens qu'eux et courir avec eux que se retrouver en face.
Sur les supporters, François Berléand, un jour vous étiez à Marseille pour un match contre le PSG, mais vous êtes amateur du PSG. Qu'est-ce que vous avez fait quand le PSG a marqué ?
Ah non, mais c'est pas ça. Moi, je jouais au théâtre.
Ah oui. Ah non,
vous étiez
dans le stade. Et...
Oui, non, mais là, c'est...
C'est quoi, c'était oui, oui. quoi ça?
Ah, j'ai fait,
Courageux, mais...
Et après, vous avez pris l'accent marseillais pour sortir du stade.
Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Oui, oui. Oh, putain.
Oh, putain, con.
Oui, oui, mais c'est vrai que c'est...
Mais c'est quand même mieux un match avec les supporters qu'en tribune officielle.
Ah oui, bien sûr.
Oui.
Bon, moi, j'étais abonné, donc. Et puis surtout, moi, j'étais. Comme j'ai travaillé à la Comédie de Saint-Étienne, parce que c'est un antagonisme très fort entre le Lyon et Saint-Étienne.
Oui. Je suis pas sûr de pardonner, mais bon.
Mais bon, et c'était du temps de la grande époque.
Oui.
Et j'étais là contre le match contre Manchester United, donc où il y avait eu. Enfin, c'était une horreur, quoi. Et nous, on était en tribune officielle. Et normalement, j'étais toujours dans ces virages-là. C'était les virages, je sais plus comment ils s'appelaient. Enfin bon. Et en fin de compte, ça a été une catastrophe, quoi. Et là, pour une fois, j'étais content d'être en officiel parce que ça avait été un vrai drame, quoi.
Ouais. Et sur les hooligans, il y a tout un chapitre, Julien.
Oui, un gros chapitre. Ouais. C'était vraiment une particularité du foot qui a été assez utilisée par les cinéastes parce qu'évidemment, il y a de l'action, il y a de l'histoire, il y a aussi de la violence. Ouais. Et que, bon, on sait que ça marche toujours aussi, malheureusement, au cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a deux pays qui ont vraiment traité cette question-là. C'est l'Angleterre, avec notamment la grande série Hooligans. Alors, si le premier est intéressant sur comment on rentre aussi dans cette folie-là du hooligans, les séries, les hooligans 2, 3, 4, là, c'est vraiment sur la volonté de montrer juste de la castagne. Mmh. Et après, il y a l'autre pays, c'est l'Italie, avec notamment deux films qui s'appellent Ultra, qui ont été faits à 40 ans d'écart, et qui regardent notamment autour de Rome, pour le premier, et de Naples, le deuxième. Le deuxième est disponible sur c'est un film Netflix, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Ultra, et qui rentre vraiment dans l'univers de ces ultra-supporters de Naples, où, avec le lien, évidemment, avec la mafia qui existe, mais on rentre vraiment, on a l'impression d'être dans une secte, en fait. Et c'est une plongée assez obscure et assez impressionnante sur comment on peut en arriver là et où on se découvre qu'en fait pour ces personnes-là, le foot est complètement absent presque. Quoi. L'enjeu du foot, il est plus là en fait. Il se joue ailleurs dans les tribunes et puis c'est dans la vie aussi qu'ils ont et cette relation qu'ils ont avec leur ville. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet de voir quel est le lien de ces fans avec leur ville et comment le foot vit dans cette ville aussi et comment elle fait vivre la ville. C'est ça qui est intéressant, c'est comment le foot fait partie de notre société.
Ouais. Comme on est une émission de cinéma, on va aborder le chapitre de filmer le football, bien sûr. Vous, Vincent Duluc, vous dites que la télé, elle filme toujours pareil, en fait.
Oui, elle filme toujours pareil. Oui. Ça a très peu évolué. Depuis que Canal est arrivé au milieu des années 80, et est passé de 4 caméras, je crois, à 8 ou 9. Après, on s'est rendu compte qu'aller au-delà, ça changeait rien, que c'était pas la peine de multiplier les caméras. Effectivement, la seule nouveauté, je disais, c'est l'espèce de petite caméra qui est tenue par des câbles et qu'on voit passer au-dessus des joueurs qui viennent au-dessus d'un coup franc, qui donnent une autre vision. Mais on est quand même toujours, au lieu d'être un peu au-dessus depuis le côté, on est quand même au-dessus depuis le centre, mais ça change pas grand-chose. En fait, encore une fois, la nouveauté, ça sera d'avoir le sentiment de vitesse. Parce que la dimension du foot qui n'apparaît ni au cinéma, ni à la télé, c'est la vitesse, en fait. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes à 80 mètres d'ailleurs, je peux parler, une fois, Raymond est entraîneur de Lyon, et il me dit, et je travaille au Progrès à Lyon, et il trouvait que je disais du mal de son équipe. Franchement, ça me paraît pas possible. Et il me disait, tu devrais venir voir une mi-temps en bas, à côté de moi, et t'aurais une vision différente du jeu.
Ouais.
Et donc, pendant une mi-temps, je sais pas, il avait demandé permission à la Ligue, et pendant une mi-temps, j'étais à côté du banc, et j'ai regardé le foot. Il me dit, tu verras, tu seras plus indulgent, tu verras la vitesse, tu verras les efforts, tu verras la sueur, et c'est la vérité. J'ai vu un autre foot en étant au bord, en voyant les efforts, la sueur, les images, on voit autre chose. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir arriver à trouver, et au cinéma, c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à recréer, mais pas de manière artificielle, de manière réelle. Et le problème, c'est qu'effectivement, avec les trucs numériques, on peut le faire. Mais si c'est pour que ça ressemble à Olivier Tom et que le gars qui remonte le terrain, il remonte pendant 2 minutes 30, ça ne marchera pas. Quoi.
Voilà ce que propose Jean-Luc Godard comme solution.
C'est très très mal filmé. Le football, je ne sais pas si ça peut être bien filmé en direct, en recomposé, oui. Ce qu'il faudrait, c'est le filmer en direct, avec beaucoup, beaucoup de choses, et ensuite, deux ou trois mois après, remontrer le film, et de montrer la Coupe du Monde uniquement à ce moment-là. C'est comme ça que étaient filmés les Olympiades autrefois.
Qu'est-ce que vous en pensez, Raymond Domenech, de cette proposition de Jean-Luc?
J'avoue que j'ai pas tout compris.
si le filmer avant, le filmer pendant et le montrer après.
C'est-à-dire qu'on garde tout, le résultat, caché.
Voilà, mais comment il va
faire, on va faire ça à huis clos.
Ouais,
voilà. Sans spectateurs, donc l'essence du foot, et on l'a vu pendant le confinement, il manquera quelque chose. Mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est difficile de donner cette impression de vitesse, d'engagement, de contact. Parce que même quand on met des caméras, je l'ai vu sur les caméras basses au ras du terrain, on voit les joueurs de près. Et on a l'impression presque que c'est encore plus au ralenti, alors qu'il y a une dimension d'impact, de vitesse, qu'on n'a pas réussi à traduire encore dans le cinéma.
Sauf qu'à la télé, il y a
vidéo, c'est la vidéo qui fait qu'il n'y a pas de profondeur de champ. Oui. Et c'est vrai, quand on voit un Grand Prix de Formule 1, ça va à une vitesse incroyable, et puis quand on voit à la télé, ça...
Ou une descente à ski, par exemple.
Oui, c'est ça, voilà. Salon,
c'est incroyable.
Oh, il y a un truc bien quand même, c'est quand ils rediffusent le but.
Le ralenti.
Ah oui.
Oui, mais c'est l'inverse de la vitesse.
Non, mais certes. Non, mais en termes d'action, si vous voulez. Ça, c'est le grand avantage de la télé, quand même.
C'est le grand avantage, mais enfin, sans vouloir conceptualiser, le ralenti, ça crée une nouvelle image.
Oui.
Ça crée une nouvelle image qui est parfois pas réelle.
Non, mais quand il aurait dit vu, c'est pas forcément tout le temps ralenti, c'est aussi parfois dans la même vitesse que celle qui a été.
Oui, avec des angles différents, oui, c'est
ça. Oui, avec des angles différents.
Mais du coup, on voit plus l'exploit technique quand il y a le ralenti, le. Là, c'est... Non, voilà.
Ouais, non, on s'est, évidemment, en voyant tous ces matchs et la représentation, on s'est posé la question sur qu'est-ce que c'est que bien filmer le football au cinéma. Et la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment aller sur le terrain de la télévision ou choisir un angle complètement différent, et notamment un angle de cinéaste.
Oui.
Et les angles de cinéaste, enfin, il y a deux choses sur lesquelles la télé ne pourra jamais rivaliser avec le cinéma. C'est le point de vue, c'est-à-dire que le point de vue du réalisateur, par exemple, en travaillant notamment avec le hors-champ, c'est-à-dire ce qu'il n'y a pas à l'écran, comme il y a eu pour le portrait de Zidane, 21e siècle, qui avait déjà été fait par Georges Best avant, sur Georges Best avant, 71, où là, on n'est que sur Zidane, et quelque part, le football apparaît parce qu'il n'y a pas à l'écran.
Et bien justement, on écoute.
À ce match, il s'est passé de tout, quoi. Et on a choisi comme si c'était, il fallait qu'il se passe de tout, justement. Celui qui va le regarder, il va se sentir à ma place, un petit peu.
17 caméras, Julien Camille, haute def, pour capter comme si on était avec Zidane.
Exactement, pour être au plus près de l'homme, de ce qu'il pense, de ce à quoi il joue, de ce à quoi il regarde à côté ses coéquipiers, ce qu'il est en train de vivre, de penser. Enfin, on essaie vraiment de rentrer sur la notion aussi du corps, comment le corps se déplace dans l'espace. Voilà, donc ça c'est vraiment un point de vue de cinéaste qui est très fort. Et l'autre force du cinéma, c'est la gestion du temps.
Oui.
C'est-à-dire que le cinéaste, il peut étirer le temps, c'est-à-dire qu'au moment du pénalty, il peut faire durer la séquence 10 minutes. Il peut, dès qu'il y a un but, souvent, et marrant, au cinéma, c'est dès qu'il y a un but, c'est un ralenti. La remontation est un ralenti, alors que dans la réalité, ça va extrêmement vite.
Avec le VAR, en ce moment, ça peut durer 10 minutes.
C'est vrai.
Vincent Duluc, Zidane, un portrait du 21e siècle. Là, vous avez ressenti plus. Non, vous avez une tête.
Non, j'ai trouvé que c'était un pari esthétique réussi. Voilà.
Oui.
Mais footballistiquement, ça m'a laissé. Je sais pas. Parce qu'en plus, ce qui pose la question. Enfin, ce en quoi la démarche est soupçonnable, c'est est-ce qu'on a vu le vrai Zidane ou est-ce qu'on a vu le Zidane qui savait qu'il était filmé par 9 caméras.
C'est ce que je me suis posé comme question.
En même temps, comme il a pris un carton rouge, on se dit on a vu le vrai Zidane. Oui. Mais on n'est quand même pas sûr.
Non, c'est vrai. François Berléand.
Ouais, je partage totalement. Ouais.
On va se focaliser maintenant sur deux grands footballeurs qui ont été mis en scène au cinéma, mais bien sûr, Cantona par Ken Loach. Looking for Eric Bishop, c'est un postier à Manchester. Et le fantôme de Cantona va l'aider un petit peu à reprendre sa vie en main avec cette leçon de non.
You must say no. No. Come on, say it. No. In French. No.
No.
Like you mean it. No.
No.
More. No.
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 From your balls. No.
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 No. Magnifique cette association Cantona, Ken Loach, Vincent Duluc.
Mais elle est magnifique parce que pour le coup. Là, c'est un cinéma du réel, c'est-à-dire que c'est le vrai Cantona.
Oui.
Il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'écart entre ce qu'il est vraiment et ce qu'on voit à l'écran.
Il avait été caché en coulisses à l'acteur pour qu'il le découvre sur le plateau en direct.
Oui, parce que j'ignorais ce détail, mais du coup, ça conforte. Bon, je ne sais pas si Cantona est un très bon acteur, mais quand il est lui-même, il est imbattable.
François Berléand, c'est un bon acteur, Cantona.
Il y a meilleur, mais il est bon. Il est pas mauvais. Hein. Il y a mais après bon, chacun son métier. Mais il commence à. Moi, je trouve il y a quelques fois où il est vraiment.
Parce que tout à l'heure, je posais la question à Raymond Domenech. Est-ce que les footballeurs sont des artistes? Vous, je suppose que vous pensez la même chose.
Ah oui, absolument. Oui,
mais vous êtes plus artiste que différemment artiste que.
Différemment, c'est une autre forme de.
Mais ce sont des artistes.
Moi, je trouve un beau geste technique, c'est tellement beau. Moi, c'est bien plus beau qu'une. Pour moi, que Shakespeare.
Oui. Ah oui.
Ah oui, carrément. Oui.
Ah, carrément.
Mais oui, parce que je suis un fou de gestes. Je suis un fou de sport. Donc pour moi, c'est non, enfin, c'est pas plus beau, mais c'est équivalent en tout cas. Donc une belle passe au rugby, un dribble magnifique. Voilà, moi je suis en admiration, quoi. Ça me plaît.
Raymond Domenech, ce film Looking for Eric, il montre un truc assez beau, c'est que le football est très important dans la vie des gens, peut les aider, peut être une leçon de vie. Ça, c'est très important en fait, le message délivré par ce film.
Mais c'est le message qu'on essaye de faire passer en permanence partout, au niveau des ministères. Le sport, c'est le lien social. Et Ken Loach le dit très bien, j'ai adoré ce moment en lisant le bouquin, c'est justement, il dit, c'est le moment où tout le monde se retrouve, oui. on est tous ensemble, il y a plus de grades, c'est-à-dire on peut avoir un costume, ou c'est le sport qui transporte. On est à un moment, c'est un vase clos, on est là, on est dans ses émotions et tout le monde le partage. Et ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais si on reprend sur l'éducation, les enfants qui ne font pas de sport, quelque part, il leur manque quelque chose. Mmh. C'est tellement évident, banal, mais qu'on ne sait pas encore. Ça devrait être écrit dans la Constitution, c'est l'obligation du sport pour les enfants et l'aide pour qu'ils puissent en faire normalement.
Et puis il y a des joueurs, je sais que vous ne l'aimez pas trop, François Berléand, mais c'est quand même une star mondiale, c'est Maradona qui était mis en scène par...
C'est que j'ai pas aimé la main de Dieu, c'est pour ça. Un joueur exceptionnel, évidemment.
Et Manu Chao qui chante pour lui dans ce film, La vie d'Adam.
Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola.
La scène est très belle, non, la scène est très belle, on disait Vincent Lulu, parce que d'abord Manu Chao a attendu des heures et des heures Maradona, qui arrive enfin, qui sort de sa voiture et qui reste avec debout avec ses lunettes noires à le regarder. Ça, vous en parlez dans le livre, Julien Dupuis.
Ah oui, moi c'est une scène, c'est un documentaire, mais c'est une scène qu'on rêverait de penser dans un cinéma de fiction, dans un film, et qu'on dit, mais si on le met, personne va y croire en fait. Mais ça s'est vraiment passé dans la vie, et ça montre tout le côté énorme qu'avait Maradona. C'est quelqu'un qui a une vie qu'on n'a jamais pu quelque part maintenir dans une case. Et nous on dit dans le livre que en fait Maradona c'est une cinémathèque à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma burlesque, il y a le cinéma noir, il y a la tragédie, il y a l'héroïsme, il y a tout en fait dans la vie de Maradona. Il y a tout ce qu'il y a pour faire des beaux films.
Et Raymond Domenech et le cinéma. À jouer dans les films.
Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai oubliés. Ils m'ont oublié d'ailleurs aussi.
Non. La surface de réparation de Bernard Favre.
Ah oui, c'est vrai.
Dans lequel vous jouez notamment.
Un agent, non, c'est ça? Qu'est-ce que je faisais? Je me souviens plus non plus. Je suis comme vous. J'ai oublié des trucs.
Et vous, François Berléand, il y a un footballeur qui est venu vous voir au théâtre un jour.
Ah bah Zidane.
Ah non, mais il y a un Brésilien aussi.
Ah oui. Ray, Zidane aussi.
Je suis venu aussi quelques fois. Et
Zidane est venu vous voir au théâtre.
Ouais.
Et il est venu vous voir en loge après.
Oui, en loge après. Et c'était une pièce de Sébastien Thierry.
Oui.
Et il ne savait pas qu'il y avait Zidane. J'ai fait la surprise et il était dans un état. Il faut dire que bon, c'est impressionnant. Hein, Zidane, c'est quelque chose. Quoi.
Ouais.
Et Ray aussi, parce que Ray, c'était le capitaine de l'équipe du Brésil.
Oui.
C'était un joueur magnifique qui, au départ, est. A été, je me souviens, assez insulté par la presse. Hein. C'était pas bien. L'équipe, il y avait. Et même par Thierry Roland, qui se foutait de sa tête. Et donc, je me souviens qu'après la revanche, quand il a été capitaine, et puis quand il a super bien joué, quoi, c'était magnifique. Et Ray parlait un français absolument remarquable, et sans faute de français, presque pas d'accent, c'était assez impressionnant. Et il allait au théâtre. Et Raymond aussi va au Domenech au théâtre.
Ouais.
Et je l'y ai croisé une fois.
Laurent ?
Non, je crois qu'il faut rappeler...
Oui, tout le reste foot, est dans ce film, dans ce
dans
livre.
Dans ce livre, le foot à l'écran, la petite entreprise Camille Père et Fils, qui a aussi commis Sport et Cinéma, toute nouvelle édition,
sans
plus, voilà, chez Amphora.
Tout à fait. Hein. Ouais, c'est il est sorti hier et voilà, ça complète. Là, pour les amateurs de foot, il y a le foot à écran qui est sur le foot sur tous les écrans parce qu'il y a les. On parle de l'animation, des séries, des documentaires, oui. de fiction. Et le foot au cinéma, c'est sport par sport tous les grands films de fiction.
Et puis des thèmes aussi, l'homophobie, les femmes, les enfants, les animaux et des quiz.
Ah oui, exactement. C'est le foot à l'écran. Je dis que c'est un inventaire ludique et joyeux autour du football sur tous les écrans.
Comme c'est bien dit.
Jaune comme un carton, la couverture. On se retrouve après ce morceau pour parler des sorties. Vous restez avec nous, bien sûr. On va parler des films qui sortent. Laurent, on va commencer par le plus beau de la semaine, c'est Memoria. De Happy Chatpong, Vera Setakul, Bogota, au lever du jour, elle est surprise par un grand bang et ne retrouve pas le sommeil, un bang qu'elle seule entend. Quel point de départ pour ce film, le son qui l'obsède, dont elle va rechercher l'origine, dans un studio, dans une régie son et ensuite dans la forêt. Une aventure sensorielle comme jamais au cinéma. Un chemin lent et difficile. Au début, beaucoup vont se décourager, mais récompensé à l'arrivée avec la sensation d'avoir dépassé les frontières du temps.
Oui, c'est vrai, c'est le prix du jury ex aequo au dernier festival de Cannes avec Le Genou d'Aed, le film israélien de Nadav Lapid, qui sont d'ailleurs tous les deux des belles propositions de cinéma. Celle de Vera Setakul est encore peut-être plus incroyable, c'est vrai, parce que moi, ça m'a fait penser l'annoncier du soulier de satin. Il dit au début, restez bien, c'est ce que vous comprendrez pas qui est le plus beau. Bon, ben ça donne ça, c'est-à-dire que effectivement, on ne comprend pas forcément. On est plongé, vous le disiez, dans un bain sensoriel d'espace, de son, de temps, de fantômes aussi, parce qu'il y a tout le temps des fantômes dans ce cinéma-là. Et est-ce qu'elle est bien vivante d'ailleurs cette femme qu'on voit, on ne sait pas. Tilda Swinton, on ne le sait pas, on ne le saura pas, et c'est tant mieux. Et je crois que cette façon de célébrer le cinéma, de célébrer l'immersion dans une salle obscure pour donner des sensations, des sentiments et des affects, je crois que c'est magnifique et c'est effectivement ce qu'on a vu de plus beau parce que de plus mystérieux au Festival de Cannes cette année. Allez-y et débarrassez-vous du cartésien. Tout rationalisme et plongé dans Memoria.
Amant de Nicole Garcia avec Pierre Ninet, Stacy Martin et Benoît Magimel. Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, ils décident de fuir. Lisa attend ses nouvelles désespérément. 3 ans plus tard, dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo quand leur destin se croise à nouveau, un amour fatal. Dans un film en 3 actes, 3 personnages, 3 lieux, et qui drainent des thèmes tels que la quête d'identité, le secret, le passé. Et pourtant difficile d'adhérer malgré une élégante mise en scène, ou peut-être à cause d'une élégante mise en scène.
C'est possible. En tous les cas, cette élégance-là, elle est présente dans la toute première scène du film, qui est d'une sensualité absolue, avec des draps noirs, etc. Enfin bon, je raconte pas ce qui se passe, mais franchement, on est tout à fait subjugué. Il faut dire effectivement après que le film s'enlise un peu dans cette histoire de trio amoureux chez les ultra-riches suisses antipathiques, dont on n'est pas certain qu'on a quelque chose à faire avec eux. Et plus, ça c'est embêtant quand même, quelques invraisemblances scénaristiques, reste un Benoît Magimel qui, en ce moment, de film en film, oui, impose une sorte de carrure sidérante, de monolithe parfait. Donc là, c'est tout à fait intéressant.
Amant, ça s'appelle. Oui. Un doc de Marie Dumorat. Loin de vous, j'ai grandi depuis longtemps. Nicolas se débrouille seul. Aujourd'hui, il a 13 ans. Il aime l'histoire d'Ulysse, Jack London, et vit en foyer dans la vallée de la Bruche avec son ami Saïf, arrivé lui de loin par la mer.
Alors, Marie Dumorat, elle fait un projet, enfin, c'est pas un projet, c'est une réalité cinématographique depuis 20 ans. Elle suit la même famille alsacienne, Yenich, et elle fait des portraits comme ça de chacun de ses membres. C'est très très étonnant ce travail de suivi. Ça donne effectivement des films qui, chacun est porté par une personnalité ou une tribu. Là, en l'occurrence, c'est ce Nicolas, 13 ans. Alors, c'est un formidable film sur l'apprentissage, voilà, sur la découverte de la vie, ses lectures, vous le disiez, sa personnalité en construction, ses amis, sa famille qui est un peu à la fois proche et lointaine parce qu'il est en foyer, et puis il y a aussi le foot. Tiens, voilà, il joue au foot ce petit garçon, et c'est bien normal. Il y a comme ça un mélange permanent dans ce portrait de distance, de légèreté, de gravité, qui est tout à fait saisissant, et on a décidément toujours envie de plus en plus de connaître tous les membres de cette famille.
Très joli titre, Loin de vous, j'ai grandi. Ah, oui. Haut et fort de Nabil Ayouch. Anas est un ancien rappeur engagé dans un centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca et qui va encourager ses élèves et notamment les filles à s'exprimer.
Oui, alors on peut être admiratif,
bonnes intentions.
Des très bonnes intentions dans un vrai faux documentaire qui a tous les éléments de ce genre de film de transmission, c'est-à-dire le prof qui arrive, les élèves ne l'aiment pas, il se fait finalement aimer et puis il finira par, allez, je ne dis pas la fin, mais enfin est manifestement connu de tout le monde. Ce qu'on peut retenir, c'est évidemment l'enthousiasme et l'allant de ces jeunes gens et de ces jeunes filles notamment. Donc pour ça, on retiendra le film de Nabil Ayouch.
Haut et fort. Orange sanguine de Jean-Christophe Meurice. Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock. Un ministre soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente qui rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Ce serait un peu orange amer entre vraies bonnes scènes très drôles, comme la première sur le concours de rock et celle avec Podalides le politique, et une provoque facile, notamment celle de Blanche Gardin.
Oui, on rit plus, beaucoup plus au début qu'à la fin, oui. Et à la fin, je trouve que même ça devient outrancier, caricatural, ultra-violent, une espèce d'ultra-violence que, pour ne pas dire grand-chose, et moi, au bout d'un moment, quand même, le malaise a été grandissant, et je suis sorti pas très heureux de ce film.
On rappelle vite, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, de Olga, de Eli Grapp, donc avec...
Sur une gymnaste, donc on est en plein sujet sportif.
Oui, un grand récit d'apprentissage entre rêve olympique et révolution magnifique. Politique. Et puis les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, deux frères dans la France du début des années 80, c'est une merveille, avec un comédien dont il faut retenir le nom, il s'appelle Timothy Robard. Maudit, c'est un film d'horreur, Laurent, de Emmanuel Parot.
Oui, enfin, c'est un film de fantôme.
En Réunion.
Il avait fait à la Réunion, il avait fait Sac la mort, qui avait été très très distingué. Et là, on retrouve ce mélange de films de fantôme, un peu de films de genre, mais surtout de regards très très politiques. Alors, il y a des choses, vous le disiez, ça se passe à La Réunion, donc il y a des choses sur la France, aimée et détestée à la fois, le métissage, donc la situation à La Réunion. C'est, de ce point de vue-là, assez réussi sur ce mélange des genres.
Une reprise de Vittorio De Sica, c'est Umberto D.
1952, absolument. Préparez vos mouchoirs, mais c'est merveilleux. C'est un petit prof retraité qui devient un mendiant. On a tous envie de pleurer.
Et Rocky, bien sûr. Alors, parce que Rocky, rajeuni, remasterisé, magnifique copie.
Sport et cinéma.
Dans 130 salles en France. Beaucoup l'ont vu. Non, mais beaucoup l'ont vu en version française, Adrienne. Et moins en version en VO. Donc, c'est les débuts de Rocky. Pardon.
C'est le 1.
C'est le 1. C'est le premier. C'est le début, du mythe.
Ah oui,
vous adorez ce film.
Mais le moment où il monte les marches de Philadelphie avec la musique et qu'il lève les bras, je peux voir ça tous les jours.
Alors que dans le dernier, il y a plein de tous les habitants qui refont la même chose que lui. Non, mais c'est absolument, je l'ai oublié, je sais pas, à nouveau pleurer, c'est horrible.
On dit que depuis, à partir de lundi jusqu'au 28 novembre, les cinéphiles seront aux rencontres cinématographiques de Cannes. Vous les connaissez un peu, Julien et Camille, je crois que votre papa s'en occupe un petit peu. Il y aura 100 séances au total avec plein de jeunes cinéphiles notamment. C'est ce qui fait beaucoup le prix et le poids de cette manifestation qui n'est pas un contre-festival de Cannes, mais qui prouve qu'à Cannes, il n'y a pas que le mois de mai qui compte.
Et maintenant, les cadeaux.
Et maintenant, les cadeaux, absolument. Alors, pour Raymond Domenech, pardon, L'Envol, c'est un film anglais, on reste un peu du côté de... un film anglais, on reste du côté de Ken Loach avec une vraie gymnaste, là aussi, tiens, ça fait la deuxième gymnaste en 15 jours au cinéma, c'est chez Arizona, c'est un très très joli premier film, là aussi avec une belle attention à cette jeune femme gymnaste.
Elle s'appelle Eva Riley,
pardon, je ne l'ai pas dit, absolument, tout à fait.
Merci beaucoup.
François Berléand, vous aimez les acteurs, vous êtes un acteur qu'on aime beaucoup, eh bien on va vous offrir de Riyad Satouf, le jeune acteur 1, qui est un portrait de Vincent Lacoste, d'une drôlerie extraordinaire. Ce qui est bien, c'est que ça n'est que le premier volet, donc on attend le second. C'est aux éditions Les Livres du Futur, et c'est merveilleux, franchement, on rit à toutes les pages.
Le casting du début est amoureux.
Mais oui, il y a des scènes d'anthologie.
Vous allez jouer avec lui?
Non, Vincent, non.
Ça va venir, parce que on le voit souvent, absolument.
Si je suis encore en vie.
Oh, là.
Monsieur Duluc, pour vous, un autre film de sport qu'on a vu cette année, Slalom, de Charlène Favier, avec les très grands Noah Habitant et Jérémy Régnier, sur l'histoire d'une jeune athlète de ski et aux prises avec un entraîneur qui, hélas, va bien au-delà de ses prérogatives. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est publié par Jour de Fête, et c'est là aussi un beau DVD, un beau film de Charlène Favier. Et puis allez, on fait un petit pas de côté, pas tout à fait dans le sport, mais c'est une base nautique quand même qui est aussi au centre du film. Pour vous, Julien Camille, c'est ce À l'abordage de Guillaume Braque, je sais pas si le cinéphile que vous êtes a vu ce très joli film, très belle histoire d'amour qui est publié, qui est édité par Potemkin, qui est une comédie de Guillaume Braque.
Voilà. Merci beaucoup.
François Berléand, vous êtes à l'affiche au théâtre en ce moment dans 88 fois l'infini avec Nils Arestrup au Bouffe Parisien, c'est bien ça. Vincent Duluc, on a vachement beaucoup aimé votre livre Carole et Clark chez Stock. Hein,
on l'a beaucoup aimé.
Il est plus les vrais maîtres du jeu, je crois, hein, qui va sortir.
Qui est sorti déjà.
Sur
les milieux de terrain défensifs dans le football.
Oula, c'est très précis. Du jeu.
C'est pour ça que vous ne l'avez pas envoyé.
Vraiment, il ne m'a rien envoyé.
Oui, mais vous, il aurait pu.
Et bien sûr, le foot à l'écran, Julien Gérard, Camille Hugo Image, et sport et cinéma. Merci beaucoup.
Merci
à
tous les quatre.
Vive le football.
Et le cinéma. Et le cinéma.